5. Ne pas se laisser interrompre. Le débat contradictoire, nous l'avons dit, est un combat pour la parole. Le plus souvent, il nous faudra lutter pour avoir le temps de développer nos arguments et défendre notre position. Dans ce contexte, les interruptions deviennent une arme de choix. Elles permettent de perturber un interlocuteur et d'entraver la présentation de sa pensée. Il va donc falloir apprendre à nous en protéger. Commençons par une recommandation contre-intuitive. Le premier outil pour s'assurer d'être écouté, c'est le silence. Que nous soyons engagés dans une authentique confrontation oratoire ou une simple discussion animée, nous avons généralement le réflexe de déblatérer autant que possible. Nous intervenons sans cesse, réagissons à chaque occasion, n'hésitons pas à couper nos contradicteurs si nécessaire. Bien sûr, cela peut se révéler efficace. Au terme des échanges, notre position aura été amplement étayée. Mais nous risquons également d'agacer, voire pire, de nous dévaluer. Lassés de nous entendre, les auditeurs finissent par nous prêter moins d'attention. Nous aurons beaucoup parlé, certes, mais n'aurons pas forcément été entendus. Prenons l'habitude donc, si plusieurs interlocuteurs participent au débat, de rester le plus longtemps possible silencieux. Faisons de notre parole un bien précieux. Lorsque, enfin, au cœur du brouhaha, vibrera le son de notre voix, l'attention se focalisera naturellement sur nous. Nous parviendrons alors à être écoutés sans avoir eu à batailler, une inestimable opportunité. L'œil du cyclone, toutefois, ne durera pas longtemps. Bien vite, nos contradicteurs chercheront à reprendre l'ascendant. Quant aux situations de duel, elles rendent caduque toute stratégie centrée sur le silence. Nous laisserions tout le terrain à notre unique adversaire. Il va donc bien falloir apprendre à calmer les ardeurs des fâcheux qui souhaiteraient nous interrompre. Il n'y a pour cela, au fond, qu'une seule stratégie. Réclamer qu'ils nous laissent finir. Exiger explicitement qu'on ne nous coupe pas la parole. Cela revient, comme souvent, à dévoiler une tactique afin de l'éventer. Une fois que nous aurons accusé notre adversaire, plus ou moins explicitement, d'être un perturbateur mal élevé, il lui deviendra de plus en plus délicat de continuer à nous parasiter sans nous donner raison. Encore va-t-il falloir le faire avec tact, en respectant une forme de gradation dans la dénonciation. Nous commençons, à la première interruption, par demander le simple respect de la politesse. Cela peut passer par des formules ampoulées. J'aimerais, si vous le voulez bien, aller au bout de mon idée. Ou plus brusque et ramassé. Je vais finir, d'accord ? Au quotidien, le plus souvent, nous n'aurons pas besoin d'en faire davantage. Ce simple et bref rappel à l'ordre suffira à nous apporter le temps qui nous manquait. Si d'aventure notre interlocuteur revient à l'assaut, nous devrons passer à la deuxième étape. Invoquer la règle de réciprocité. Nous utiliserons alors la formule consacrée « Je crois vous avoir écouté sans vous interrompre, j'aimerais que vous fassiez de même ». C'est ici, bien sûr, qu'avoir utilisé le silence révélera tout son intérêt. Si auparavant nous avons coupé la parole de manière incessante, il sera difficile de s'insurger qu'on nous rende l'appareil. Dans la vie courante, à moins d'avoir face à nous le dernier des cuistres, nous n'aurons pratiquement jamais besoin d'aller plus loin que ce deuxième coup de semonce. Dans le cadre d'un débat public, en revanche, il pourra nous arriver d'être confrontés à un interlocuteur mal intentionné, qui cherchera ouvertement à nous empêcher de parler. Dans ce cas seulement, nous aurons recours au troisième palier de cette stratégie, la contre-attaque. Nous utilisons les multiples interventions de l'adversaire comme une faille nous permettant d'endommager son éthos. Les options ne manquent pas. Nous pouvons par exemple utiliser l'humour. « Mais enfin, mon vieux, c'est une maladie. Vous êtes donc incapable de rester silencieux plus de 10 secondes. Il ne faut pas participer à un débat, hein, si ce que disent les autres ne vous intéresse pas. » Ou alors, dénoncer la lâcheté de la manœuvre. « Encore ? Mais êtes-vous à ce point terrifié par ce que je pourrais dire que vous ne pouvez pas me laisser parler ?» Attention, cela dit, il s'agit de répliques extrêmement dures. Elles ne devront être utilisées qu'en toute dernière instance, seulement si nous sommes la cible d'une agression caractérisée. Dans le cas contraire, c'est nous qui passerions pour une brute. Et si nous continuons d'être harcelés, alors nous n'aurons hélas que 2 options. La première, abandonner. Considérer que l'adversaire viole la plus élémentaire règle du débat et nous résoudre à quitter la réunion ou le plateau. La seconde, lutter. Ne plus céder la parole, hausser le ton, interrompre nous-mêmes. Ce sera l'escalade irrémédiable jusqu'au conflit ouvert. Nous ne convaincrons personne, mais au moins notre adversaire non plus. Sa muflerie aura forcé le match nul. Enfin, une dernière remarque pour souligner que certaines interruptions sont légitimes. Il peut arriver que, sans forcément nous en rendre compte, nous monopolisions l'attention. Il est alors normal que nos interlocuteurs cherchent à nous couper. Dans une telle situation, il faudra accepter de laisser la parole circuler et ne surtout pas s'offusquer, cela ne ferait que nous rendre ridicules et détestables. 6. Faire diversion. Parfois, rien ne se passe comme prévu. Malgré une préparation rigoureuse, une argumentation vigoureuse et une défense de fer, la situation finit par nous échapper. Une objection encaissée, notre contradicteur parvient à l'exploiter et nous voilà soudain à 2 doigts de perdre le débat. Nous pourrions alors être beaux joueurs et concéder la victoire. D'un sourire, nous admettons « Bon, je vois bien que je ne parviendrai pas à convaincre, ainsi soit-il, nous ferons avec ta solution. » Nous aurons échoué sur le fond, mais au moins, notre éthos sera sauf. Ou bien, nous pouvons tenter une dernière manigance, faire diversion. Il s'agit d'une tactique aussi simple qu'éculée. Elle consiste à faire sortir le débat de ses rails. Étant irrémédiablement dominé sur le fond de la discussion, nous nous débrouillons pour la faire dériver sur une toute autre question avec laquelle nous espérons bien reprendre l'avantage. En somme, nous commettons un hors-sujet et espérons qu'il passe inaperçu. Pour peu que la manœuvre soit déployée avec une grande subtilité ou beaucoup d'aplomb, elle est parfaitement susceptible de nous sauver la mise. On la connaît sous le nom de « stratagème du hareng rouge ». Étude de cas. Lors d'une fin de soirée trop arrosée, je me suis engagé dans un débat houleux avec un braillard qui défendait ardemment la réouverture des maisons closes. Hélas, l'énergumène s'est révélé moins ignare qu'il ne le paraissait. Tout sourire, il est en train de me faire passer pour un benêt. Si je ne veux pas me retrouver humilié devant mes amis, il va falloir trouver une issue. Je pourrais tenter de changer de sujet simplement. « Bon, on a compris ta position, les femmes sont libres, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. J'imagine qu'au nom de la liberté, tu dois être également favorable à la légalisation du cannabis. » Si mon interlocuteur mord à l'hameçon, cela ouvrira un nouveau front dans notre discussion, l'occasion pour moi de jouer une nouvelle partie en argumentant cette fois plus précautionneusement. L'appât est grossier cependant. Pour éviter le piège et continuer de me tourmenter, il suffirait de répondre « Alors, ça n'a aucun rapport. Revenons sur les maisons closes. » Une autre possibilité consisterait à rendre le débat personnel. Je pourrais tenter quelque chose comme « Tu as une fille, toi ? Non ? Alors, imaginons que tu as une fille. J'imagine que cela ne te poserait aucun problème si, à peine majeure, elle t'annonçait vouloir travailler dans une maison close. Le coup est plus subtil. Si mon adversaire répond « Bah, évidemment que ça me poserait un problème !» Il donne l'impression d'être un hypocrite inconséquent et je reprends l'avantage. S'il me dit « Eh bien non, ça ne me poserait aucun problème !» Il s'affiche comme un père peu protecteur. Je peux désormais faire dériver la discussion sur le terrain de l'éducation des enfants. Bien sûr, mon interpellation ne serait rien d'autre qu'un pur sophisme de l'homme de paille. Je me serais contenté de partir de l'affirmation de mon adversaire « je suis pour la réouverture des maisons closes » et de l'élargir jusqu'à ce qu'elle devienne difficilement défendable. « Je souhaite que ma fille devienne une travailleuse du sexe ». Pour les vanter, il suffirait d'expliciter la distinction. Cela n'a aucun rapport. Je suis pour les maisons closes parce que je pense qu'elles offrent des conditions de travail décentes aux femmes et aux hommes qui, de toute façon, ont fait le choix de se prostituer. Cela ne m'empêche pas de rêver d'un autre destin pour ma fille. Si je sens que mon contradicteur est trop affûté pour tomber dans l'une ou l'autre de ses fourberies, il me reste une dernière option. Passer à l'agression. Utiliser de basses insinuations, voire des injures caractérisées. Pour peu que l'adversaire manque de maîtrise de lui, mon trait pourrait bien l'atteindre. Il va alors s'énerver, tempêter, perdre le contrôle. L'interaction basculera inévitablement dans le conflit, voire dans la violence physique. Mais au moins, j'aurais évité la défaite. Peut-être même, enivré par la colère, mon interlocuteur commettra-t-il une erreur que je pourrais exploiter pour relancer le débat. Attention toutefois, pour peu qu'il garde son flegme, il retournera aisément le procédé contre moi. Des injures maintenant. Bravo, je vois que monsieur est définitivement à court d'arguments. En plus d'un crétin, je passe désormais pour un goujat. Décryptage. Terrible et odieux stratagème que le hareng rouge. Lorsqu'il est couronné de succès, il nous permettra de voler une victoire qui était acquise à notre adversaire. Prenons garde cependant. Comme nous venons de le voir, il peut être aisément retourné contre nous. C'est notamment le cas pour sa version la plus agressive. Si elle échoue à entraîner la dislocation du débat dans la fureur, c'est nous qui en ressortirons frappés d'indignation. L'auteur du plus célèbre manuel de débat, Arthur Schopenhauer, ne s'y était d'ailleurs pas trompé. Dans L'art d'avoir toujours raison, il recommande de ne l'utiliser qu'en guise d'ultime procédé. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut abandonner le sujet de la dispute que l'on a perdu pour attaquer la personne elle-même. On devient insultant, malveillant, injurieux, vulgaire.